On a vraiment à suivre la réglementation, en particulier l'évolution de la réglementation au niveau de l'assurance maladie. C'est eux qui nous règlent tous les transports. Hein. Bien surveiller le social, c'est pour ça qu'on se voit tous ici, ben, pour donner l'information auprès de l'ensemble de nos adhérents et donc du département, de ce qui a évolué au niveau de la réglementation auprès de l'assurance maladie, de la réglementation au niveau de la convention collective et du droit du travail, ben, pour qu'on puisse s'adapter et trouver des solutions pour continuer à travailler dans de bonnes conditions.
C'est essentiel d'être en association, ensemble, pour pouvoir œuvrer dans de bonnes qualités.
C'est même une évidence, on ne peut pas seul décider, on ne peut pas peser seul, il faut absolument être regroupé. Chaque secteur a son importance, chaque secteur est différent, et donc il faut absolument qu'on retrouve dans la voie que porte l'association l'ensemble des problématiques de tout le département.
Quelles sont justement les problématiques que vous rencontrez ?
C'est l'éloignement que l'on peut avoir vis-à-vis du CHU de Marseille, des grands hôpitaux. Donc ça veut dire que nos patients et nos ambulanciers partent pour de longues heures sur Aix et Marseille. On a des coins du département qui sont relativement isolés, où on a des grands temps de route. Avec la saison qui arrive, la neige en plus qui allonge encore plus ces temps de route-là, ben c'est la grosse problématique de notre département, quoi. C'est l'éloignement et la ruralité qui fait que ben, sans notre activité, ben, les gens auraient de grandes difficultés à pouvoir descendre sur les grands hôpitaux sur Aix et Marseille.
J'ai noté dans vos diverses conversations d'autres problématiques, notamment en ce qui concerne les remboursements. C'est difficile pour être remboursé des trajets effectués ?
Ben, les transports sont remboursés suivant deux conditions. La première qui est une condition administrative, il faut que le patient qui est transporté soit dans une certaine situation administrative pour être remboursé. Et en plus, il faut que derrière, il y ait une condition médicale pour que le transport soit remboursé. Donc effectivement, ça multiplie les contraintes pour un remboursement. Mais je dirais que comme pour les médicaments et d'autres prestations médicales, tout n'est pas remboursable. Et le gros de notre travail pour nous à l'appel, c'est de détecter ce qui va être remboursable de ce qui ne va pas l'être.
13 sociétés sur les Alpes de Haute-Provence, c'est beaucoup, c'est pas assez?
Ben, c'est la géographie qui nous a, entre guillemets, constitué un si peu grand nombre de sociétés. C'est vrai qu'effectivement, on est peu nombreux au regard d'autres départements, mais c'est aussi dû à la taille de certaines entreprises. Et effectivement, trop petit, c'est dangereux parce qu'on n'a pas la taille pour supporter une charge de travail ou cet éloignement. Et trop gros, ben, on n'a pas non plus la capacité à faire activer tout le monde. Donc on est arrivé quasiment à un nombre de sociétés qui est le plus bas qu'on puisse être. On pourra guère être beaucoup plus nombreux et guère moins nombreux. Quoi. Voilà.
Quelle est la véritable différence entre le monde de l'ambulance, l'ambulancier, et à côté les taxis? Et des fois, en plus, je sais que certaines sociétés font les deux.
Une partie du travail du taxi est similaire à l'activité du transporteur sanitaire. Effectivement, le taxi a la capacité de transporter des malades au même titre que les VSL, mais il a en plus une activité qui est une activité de transport de clients privés, hein, directement à la charge de la personne transportée, une activité touristique, une activité d'assistance par exemple. Donc voilà, on a une partie de notre activité qui est commune et une partie de notre activité qui est différente. L'ambulancier a la partie du transport dit allongé, et la partie commune c'est le transport du patient dit assis, et après le taxi lui a sa partie plus d'assistance, de transport de clients privés, commercial, touristique. Voilà.
Alex Vacareza, donc président de l'association des taxis des Alpes de Haute-Provence, vous travaillez en synergie avec les ambulanciers aussi des Alpes de Haute-Provence ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui, bon, ce sont deux métiers qui ont quand même des similitudes en termes de transport de malades assis. Aujourd'hui, donc, sur le département des Alpes de Haute-Provence, on a 176 autorisations de stationnement qui sont regroupées dans 95 entreprises, enfin artisans et entrepreneurs taxis sur le département, et donc certains sont aussi ambulanciers. Alors aujourd'hui, donc, il y a deux choses bien distinctes. Il y a donc l'autorisation de stationnement de taxi qui est délivrée par la commune, donc, soit dans le cadre d'une création d'autorisation de stationnement, qui est quand même bien réglementée depuis la loi de 2014. Et après, il y a la possibilité d'acheter une autorisation de stationnement déjà existante auprès d'un détenteur. Pour ce qui est donc de la partie administrative de l'autorisation, et ensuite il y a donc le mode de fonctionnement avec l'assurance maladie qui fonctionne dans le cadre d'une convention transport entre le taxi et l'assurance maladie de la caisse locale. Donc là c'est un conventionnement qui est donné par l'assurance maladie en fonction de certains critères, donc de l'ancienneté d'exploitation de l'autorisation, des besoins aussi en termes de demande de transport de patients. Donc c'est pas non plus quelque chose qui se fait systématiquement, c'est quand même quelque chose de réglementé assez, on va dire, sévèrement, enfin, correctement, je dirais.
Pour devenir un chauffeur de taxi, il y a, j'imagine, des examens à passer, au moins le permis de conduire déjà, ça c'est sûr.
Tout à fait, donc aujourd'hui, donc, pour être conducteur de taxi, il faut être titulaire au minimum du permis de conduire B avec 3 ans d'ancienneté, donc de ne plus avoir de permis probatoire surtout. Et ensuite, donc, c'est être titulaire d'une carte professionnelle de conducteur taxi, donc qui s'obtient en passant un examen, donc qui se décompose aujourd'hui en 4 unités de valeur, donc sur une partie réglementation, gestion, une partie sécurité routière, une partie donc connaissance du département, géographie et topographie, réglementation locale, et ensuite le quatrième UV qui est la conduite et l'utilisation du taximètre. Donc ça, c'est le quatrième UV qui valide l'ensemble de la formation. Donc il y a une partie commune à l'ensemble du pays et une partie propre à chaque département. Un département des Alpes-de-Provence ne peut pas être systématiquement conducteur dans les Hautes-Alpes, par exemple, ou dans les Alpes-Maritimes.
Dernière question, j'imagine que ça vous touche peut-être pas vraiment dans les Alpes de Haute-Provence, néanmoins on peut en parler. On a beaucoup entendu parler des problématiques de voitures avec chauffeur. Ici, dans le 04, on le voit de quel œil cette problématique-là, si c'est une problématique?
Non, aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est peut-être pas encore une problématique, mais c'est quelque chose qu'il faut être très attentif. Ça touche déjà principalement nos confrères des grandes villes, sur les villes côtières notamment, ou les villes très touristiques. On sait qu'il y a déjà énormément d'activités qui s'est créée dans le cadre du transport de personnes par voiture avec chauffeur. Aujourd'hui, dans notre département, on a quelques entreprises qui se sont créées de transport VTC. Ce n'est pas quelque chose qui effraie particulièrement le département, mais il faut rester très très vigilant parce que ben, aujourd'hui, bon, on a la chance que le transport de malades ici reste réservé aux taxis et aux ambulanciers. De même, peut-être que cela va changer et peut-être d'autres acteurs pour encore venir aussi sur le marché. Donc il y a quand même besoin d'être très vigilant à toutes les évolutions réglementaires en termes de nouveaux acteurs qui peuvent venir sur le marché du travail en termes de transport.
D'où l'importance d'avoir une association comme celle des taxis là.
Tout à fait. Et puis surtout d'être aussi affilié sur le plan national à une fédération qui nous représente dans les ministères, dans les instances nationales et avec qui on a quand même des retours en termes d'informations, d'échanges, et puis bon, nous pouvoir faire remonter de la base du professionnel de terrain les difficultés propres à chaque département.